Les conférences du Collège de France.
Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus encore nombreux, même encore plus nombreux que la dernière fois, pour la deuxième conférence de l'écrivain, critique et professeur et helléniste Daniel Mendelssohn, que nous sommes très heureux de recevoir ici. Je rappelle que Daniel Mendelssohn a été invité par l'Assemblée des professeurs du Collège de France sur ma proposition pour donner une série de 4 conférences intitulées « Athènes et Jérusalem, littérature, histoire, écriture ». La dernière fois, on avait parlé des disparus, des mémoires, de l'histoire, de la Shoah, donc c'était plutôt le côté Jérusalem, la question avait été posée, je me souviens, par l'un ou l'une d'entre vous, et nous aurons ensuite, le lundi 16 mars, une troisième conférence, et le mercredi 25 mars, je vous rappelle, la dernière conférence alors aura lieu le mercredi 25 mars à 18h, et non pas le lundi, et voilà, donc aujourd'hui nous sommes réunis pour la deuxième conférence de la série intitulée « L'Odyssée et ses migrations, déplacements, errances, identité ». Je suis très heureux de t'avoir avec nous, Daniel, et de te donner la parole à Paris et au Collège de France. Merci déjà.
Merci, William. La dernière fois, j'ai commencé par remercier William pour m'avoir invité ici. Cette fois, je voudrais reconnaître une personne qui est en fait la marraine, pour ainsi dire, de ce projet, et c'était mon éditrice, Maxime Catrou. C'était son idée d'abord de me connecter avec le Collège de France, et c'est quelqu'une qui a vraiment été une vraie éditrice pour moi. C'est pendant 15 ans, je dirais, elle a dirigé ma carrière ici en France, qui est pour moi la plus importante de tous les pays où je suis publié. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai eu la carrière que j'ai ici en France. Et je lui suis très, très reconnaissant. Alors, au travail. L'Odyssée et ses errances. Déplacement, errance, identité. À première vue, mon sujet de ce soir ne pourrait pas être plus éloigné de celui de ma précédente intervention, la semaine dernière, le livre que j'ai écrit sur l'Holocauste, Les disparus, un ouvrage dans lequel je décris les voyages lointains, à la fois littéraux et intellectuels, que j'ai effectués pour pouvoir écrire cet ouvrage. Ce soir, je coifferai une autre de mes casquettes et vous parlerai en tant que spécialiste des études classiques. Plus précisément, en tant que spécialiste plus précisément de l'Odyssée d'Homère, une œuvre dont le protagoniste est un grand voyageur, un vagabond infatigable, tout comme je l'ai été, au moins pendant quelques années, lorsque je faisais mes recherches sur les disparus. Mais, à l'exception de cela, une œuvre qui ne semble avoir aucun autre rapport avec les disparus. Et donc, je serais tenté de dire que si la conférence de la semaine dernière faisait un geste vers Jérusalem, vers l'histoire sombre du peuple juif pendant le XXe siècle, le geste que je fais cette semaine est orienté vers Athènes, la civilisation grecque. En effet, de même que j'ai été hanté toute ma vie par mon histoire familiale, de même j'ai été hanté par l'Odyssée, depuis ma première jeunesse jusqu'au présent, en tant qu'écrivain et critique littéraire qui a tenté d'utiliser la grande épopée d'Homère pour éclairer la vie que nous menons aujourd'hui. L'un de ces efforts était mon livre « Une odyssée », un père, un fils et une épopée. Mes mémoires consacrées à l'expérience que j'ai vécue il y a exactement 15 ans, lorsque mon père, alors âgé de 81 ans, a décidé de participer à un séminaire de première année sur l'Odyssée que j'enseignais au Bard College, une expérience qui m'a donné un nouvel aperçu remarquable de la nature de l'enseignement et de la nature de la parentalité, sans parler de l'Odyssée elle-même, qui, en l'occurrence, a beaucoup à dire sur l'éducation, paideuthis, et la parentalité. Une autre tentative de relier l'épopée d'Homère à notre monde d'aujourd'hui a été mon petit livre « Trois anneaux », un conte d'exil, qui se sert d'une explication de la composition en anneaux homériques comme véhicule pour examiner la vie et les œuvres de trois auteurs qui, de diverses manières, ont été influencés et inspirés par l'Odyssée d'Homère. Le grand philologue allemand Erich Auerbach, dont l'étude magistrale de la tradition littéraire occidentale, Mimesis, s'ouvre par un examen de la composition en anneaux dans le 19e chant de l'Odyssée. L'archevêque français François Fénelon, dont les aventures de Télémaque, un exemple précoce et plutôt élevé de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui la fanfiction, dans laquelle le prélat français donne au fils d'Ulysse une nouvelle série d'aventures qui, comme celle de son père, finiront par le ramener à son propre foyer après une longue série d'aventures. Et enfin, W.G. Sebald, romancier allemand du XXe siècle, dont les œuvres mettent en scène des protagonistes désespérément errants, des personnages dont les pérégrinations oniriques, toutes déclenchées d'une manière ou d'une autre par l'horreur et la honte associées aux crimes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, font écho à la trajectoire de l'auteur lui-même qui a fui un pays dont il ne pouvait plus supporter le passé. Ce qui me frappe en considérant le travail de mes auteurs, dont l'intérêt pour l'Odyssée se ressent non seulement dans le sujet de leur œuvre, mais aussi dans leur style, comme si s'inspirer d'Homère, c'était nécessairement se lancer aussi dans des récits d'errance et de cercle. Ce qui est frappant donc, c'est que ces trois hommes ont tous été exilés ou réfugiés. Le juif Auerbach, réfugié à Istanbul pour échapper aux oppressions hitlériennes, le grand prélat catholique Fénelon, exilé de la cour après que son Télémaque, lu correctement, il faut le dire, en tant que critique acerbe du règne du roi Soleil, ait suscité l'ire de Louis XIV, et l'Allemand Sebald, auto-exilé de son pays natal, dont les crimes colorent tous ses écrits aussi obliquement qu'il les aborde. Bien. J'ai commencé par dire que ce soir nous rendrions visite à Athènes et aux Grecs. Et pourtant, il semble s'être avéré impossible d'échapper à l'attraction gravitationnelle des souffrances associées à Jérusalem. Et ça, c'est justement ce que j'aimerais explorer ce soir, pour voir s'il est possible d'entrelacer nos deux sujets et de découvrir si l'Odyssée, la grande épopée de la séparation du foyer, peut nous dire quelque chose des personnages comme Auerbach, Fénelon et Sebald, vagabonds, exilés, réfugiés, voir si elle peut nous renseigner sur les dépossédés et ceux qui les dépossèdent, et comment et pourquoi cela arrive. À première vue, Ulysse, roi d'Ithaque, guerrier célèbre de la guerre de Troie, grand héros mythique, n'est pas un personnage dont le parcours suggère un lien particulier avec notre intérêt pour les malheureux de la vie, les émigrés et les réfugiés. La plupart des gens, je suppose, s'ils connaissent un tant soit peu Ulysse et l'épopée qui porte son nom, savent qu'il est un grand aventurier, peut-être le premier grand aventurier de la tradition littéraire occidentale, une tradition qui, de surcroît, le célèbre comme l'incarnation d'un certain héroïsme masculin. Un héroïsme qui se manifeste sans cesse à travers les aventures extraordinaires qu'il doit vivre et endurer avant de retrouver enfin son royaume. Toutes ces explorations et découvertes palpitantes, peuplées de tant de créatures et de monstres surnaturels célèbres. Même ceux qui n'ont pas lu l'Odyssée ont probablement entendu parler de Calypso, la belle déesse sur l'île de laquelle Ulysse est bloqué pendant 7 longues années, insensible aux supplications amoureuses de la nymphe qui voulait l'épouser et le rendre immortel. Des lotophages, ces fumeurs de haschich avant la lettre, qui subsistent grâce à une plante qui, lorsqu'on la mange, nous fait tout oublier. L'oubli, en tant que tel, étant peut-être le plus grand danger qu'affrontent Ulysse et ses compagnons lors de leurs nombreuses errances à travers la Méditerranée, tant ils doivent résister aux tentations et aux distractions qu'offre leur pérégrination dans l'inconnu. De Circé, la nymphe aux allures de sorcière qui transforme les hommes d'Ulysse en cochons. Transformation, au moins selon une de mes amies érudites, qui est superflue. Du géant Cyclope, avec son œil unique, une sorte de figure de l'âge de pierre, dans la caverne duquel Ulysse et ses hommes sont piégés et dont ils ne s'échappent que grâce à l'ingéniosité d'Ulysse. De Charybde et Scylla, l'une tourbillon dévastateur, l'autre monstre anthropophage. Des sirènes, premier groupe féminin de la littérature mondiale, dont le chant est si envoûtant que l'écouter signifie, comme avec le lotus, tout oublier, se perdre dans un bonheur si total qu'on en oublie qui et où l'on est. Malgré toutes ces pérégrinations, cet Ulysse, ce héros aventurier, nous semble être moins un représentant du migrant ou du réfugié, désespéré ou contraint de franchir des frontières, victime de la violence ou de la xénophobie d'autrui, qu'un avatar d'un certain type d'occidental arrogant, sûr de ses prouesses et, de fait, de son droit de s'immiscer dans les lieux étrangers et sur de nouveaux territoires. L'archétype de tous, de Christophe Colomb à Neil Armstrong, en passant par Jacques Cartier, Samuel de Champlain et Robert de La Salle. En effet, la grande épopée d'Ulysse semble célébrer, pour reprendre une expression contemporaine, une certaine forme d'hégémonie politique et une certaine hétéronormativité blanche. Toute la trajectoire de l'épopée vise, après tout, au retour triomphal du héros et à la réunion finale d'une famille nucléaire, le mari et le père, longtemps absents, enfin réunis à sa fidèle épouse et à son fils dévoué. Une trajectoire qui lui permettra, en fin de compte, de reprendre sa place légitime de roi d'Ithaque, ce qu'il ne pourra faire qu'après avoir massacré les 108 prétendants, les jeunes hommes qui tentaient d'usurper son mariage et son royaume, et qu'après avoir exécuté un groupe de femmes esclaves qui soutenaient ses prétendants. En d'autres termes, de retrouver la place qui lui revient au cœur de son identité, identité d'homme, de mari, de père, de maître et de roi. Et pourtant, en gardant à l'esprit notre thème des frontières, des migrations et des identités, je souhaite maintenant aborder la question de l'identité d'Ulysse, et voir si nous, qui nous intéressons à cette autre figure, le migrant, victime de forces historiques et sociales qui le dépassent, si nous pouvons nous en inspirer et l'exploiter à nos propres fins. Pour répondre à cette question, il nous faut nous tourner vers le texte de l'Odyssée, qui s'ouvre d'ailleurs sur une allusion à la complexité d'Ulysse, bien plus importante qu'il n'y paraît. Voici comment commence l'Odyssée. Sa première partie, appelée le poème, un élément classique de l'épopée antique où, généralement, le poète annonce son sujet, ses personnages principaux et ses thèmes essentiels. « Raconte-moi l'histoire, muse, d'un homme à tant de détours, errant, dévié de sa route, après avoir pillé la forteresse redoutable de Troie. Nombreux furent les peuples dont il vit les cités et dont il apprit l'esprit. Nombreuses furent les épreuves qu'il endura en mer. » Le cœur lourd d'angoisse, alors qu'il luttait pour sauver sa vie et le retour de ses compagnons. Mais il ne parvint pas à les sauver, malgré son désir ardent, car leur imprudence à eux les perdit, à eux seuls, insensés qu'ils étaient, tels des enfants, à dévorer le bétail du dieu soleil Hyperion. Et ainsi, le dieu leur refusa le jour de leur retour. Déesse, fille de Zeus, commence où bon te semble. Partage cette histoire avec nous aussi. Trois éléments méritent d'être soulignés pour illustrer notre propos. Le premier concerne le tout premier adjectif du texte de l'Odyssée, un mot grec que j'ai traduit par « un homme à tant de détours ». Ce mot est « polytropos », littéralement « aux multiples tours et détours ». C'est un mot notoirement difficile à traduire en aucune langue, j'imagine, car il suggère l'esprit sophistiqué du héros, un esprit aux multiples facettes, un esprit qui retourne les choses, les retourne sous tous les angles, qui perçoit les problèmes sous des angles que personne d'autre ne prend la peine d'examiner. Mais ce mot suggère aussi que cet esprit a quelque chose d'un peu suspect, une capacité à se sortir des situations délicates, à contourner les obstacles de manière peut-être peu orthodoxe. ces schémas de pensée sont tortueux, rusés, non conventionnels, circulaires, inattendus. Et il existe en réalité une troisième connotation de ce mot, car polytropos est clairement destiné à exprimer quelque chose non seulement sur le héros, mais aussi sur l'itinéraire notoirement complexe et sinueux qu'il a dû suivre pendant une décennie avant de pouvoir enfin rentrer chez lui. Ainsi, la toute première chose que le poème nous révèle sur notre homme, c'est qu'il est en effet aux multiples détours, polytropos, qu'il est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ceci en soi éclaire, me semble-t-il, notre intérêt plus général pour les migrants, les frontières, pour les autres que nous séparons de nous par des murs, des limites et des clôtures. Il y a toujours plus que ce que nous croyons. Le deuxième point à noter est le mot du deuxième vers du poème que j'ai traduit par « errant, dévié de sa route », qui, en grec, est un seul mot, « planthé ». Or, « planthé » est le passé simple passif du verbe « plazo », dont le sens premier est « errer ». Et qui saurait douter que « errer » soit l'action à laquelle le héros est le plus étroitement associé tout au long de l'épopée, l'action qui l'identifie. Mais plazo est un mot dont la richesse sémantique suggère en plus non seulement les difficultés rencontrées par le héros du poème, mais aussi la complexité de son identité. Certes, le mot signifie errer. Plazo est d'ailleurs à l'origine du mot « planète », ces astres errant dans le ciel. Mais il peut aussi signifier « se détourner », un sens qui a évolué vers « repousser » ou encore « déconcerter », lequel a donné naissance à un autre sens, figuré, applicable aux états mentaux, « embarrasser », »,« faire trébucher ». Le verbe principal associé à notre homme errant est donc en réalité d'une grande complexité, avec des nuances de confusion, de difficulté, d'erreur, voire de honte. Et cette complexité est d'ailleurs soulignée par le fait que même le sens premier de planthé, errer, est complexe, polytropos, car il possède une connotation à la fois active et passive. D'une part, il évoque l'aspect du voyage à la Christophe Colomb et Neil Armstrong, parcourir le monde avec ardeur, partir activement à la découverte d'un autre monde par désir de le voir. D'autre part, il y a une nuance passive, celle qui suggère que le sujet est en fait un objet, quelqu'un soumis à des forces qui le dépassent. Ces nuances de vocabulaire grec, aussi fascinantes soient-elles, j'espère, sont largement éclipsées par un autre élément notable de notre poème à l'Odyssée, qui concerne l'identité de notre héros errant, et qui nous intéresse tout particulièrement ce soir. Il s'agit bien sûr du fait que le héros n'est pas nommé dans le poème du poème qui porte son nom. On peut comparer cela à l'autre grande épopée homérique, l'Iliade, dont le poème, pourrait-on dire, remplit sa fonction avec bien plus de rigueur. Ce poème-ci se fait un plaisir de nommer ses personnages. Il commence par une identification utile du héros. Chante déesse, la colère d'Achille, fils de Pélée. et se termine en demandant à la muse de lancer l'action de l'épopée au moment où Achille entre en conflit avec son commandant en chef, Agamemnon, fils d'Atrée. Ici, chacun a un nom, une étiquette d'identification en quelque sorte. Le poème de l'Odyssée offre ainsi un contraste saisissant à la fin de ses vers introductifs. Le héros de ce poème n'est toujours pas nommé. Cette omission d'informations cruciales est bien évidemment intentionnelle. Elle suggère que l'identité du protagoniste est dissimulée, comme suspendue dans le temps. Cette suspension, ce suspense, laisse entendre que l'identité du héros sera le sujet même du poème, son thème encore innommable. Ainsi, l'ouverture de l'Odyssée, ce célèbre récit de migration et d'errance, évite en réalité de définir son héros. Ce que nous retenons du poème, c'est que notre protagoniste, quel qu'il soit, est un personnage à la fois actif et passif, sujet et objet, aventurier et naufragé, héros et pourtant perdu en mer, devenu insignifiant. Et en effet, dès le début du poème, on nous rappelle sans cesse que le célèbre Ulysse, roi d'Ithaque, figure centrale, il convient de le rappeler, de l'Iliade, personnage que le public de l'époque connaissait bien, est en réalité un disparu, un homme parti à la guerre, une guerre qui s'est achevée 10 ans auparavant, un homme dont on n'a plus jamais entendu parler. Rappelons-nous que les 4 premiers chants de notre épopée sont consacrés non au héros, mais à son jeune fils, Télémaque, qui, dans ces 4 chants, parcourt la Grèce à la recherche des compagnons d'armes de son père, rentrés chez eux depuis longtemps, afin de les interroger sur le cas Ulysse, espérant obtenir le moindre renseignement qui puisse aider ce fils et sa mère Pénélope à résoudre la question toujours en suspens, qui est de savoir si le héros est vivant ou mort. Autrement dit, si Télémaque est un fils ou un orphelin, et si Pénélope est une épouse ou une veuve. En effet, lorsque l'action se concentre enfin au chant 5 sur Ulysse lui-même, nous le retrouvons bloqué sur l'île de Calypso, pleurant son foyer, littéralement au milieu de nulle part, loin des yeux et loin du cœur de tous ceux qui l'ont connu. Le nom de Calypso signifie « celle qui cache ou se cache », et de fait, le grand problème existentiel qui ouvre l'Odyssée est qu'il est devenu invisible, caché. L'intrigue principale du poème, son arc narratif le plus long, aura pour but de le rendre visible, de le ramener dans la géographie connue du monde, dans un lieu où son identité est reconnue et assuré. Autrement dit, de passer de l'errance à la sédentarisation, à la possession d'un foyer. Mais bien des choses doivent encore se produire avant que cet accomplissement ne soit possible. Je souhaite ici démontrer que ces nombreuses aventures, j'entends par là les célèbres périples, les voyages et les migrations à travers l'espèce et même le temps, se range elle-même dans l'une ou l'autre de ces deux catégories possibles où se répartissent, comme je l'ai décrit, les nuances du mot plazo, errer, l'une active, l'autre passive. Certaines des aventures d'Ulysse sont du type de celles de Christophe Colomb, des épisodes où il joue le grand héros, se jetant dans des situations avec brio et assurance, curieux de découvrir telle ou telle tribu, telle ou telle île, tandis que d'autres le dépeignent comme démuni, sans abri et dans le besoin, le contraignant à s'en remettre à la merci de quiconque croiserait son chemin, tel un simple jouet du destin. Mon idée ici, pour être clair et vous donner une idée d'où nous en sommes ce soir, est que la posture de Colomb semble toujours lui causer des ennuis, tandis que la posture de réfugié aboutit à des résultats plus positifs, jusqu'à même, comme je le soulignerai bientôt, la révélation de sa véritable identité. Pensons-nous maintenant sur deux moments précis et voyons ce qu'il nous révèle de la migration, du déracinement et, en définitive, de l'identité humaine. De nombreux critiques, à travers les millénaires, ont observé que les aventures d'Ulysse, après son départ de Troie, suivent un schéma précis. Les premières s'inscrivent plus clairement dans le monde tel que nous le connaissons, et de fait dans celui qu'Ulysse vient de quitter, la guerre de Troie, l'univers de violence guerrière et masculine. Après avoir quitté Troie, il incarne à merveille le héros fanfaron de l'âge de bronze. Sa première aventure, selon son récit, est une rencontre avec les Cicones, quand lui et ses compagnons envahissent et pillent leur cité, massacrant les hommes et réduisant les femmes en esclavage, une manière très similaire à celle dont les Grecs envahissent et pillent Troie, une action à laquelle, comme le rappelle le poème de l'Odyssée dans ses premiers vers, Ulysse participa. Mais l'aventure des Cicones se termine autrement. Des renforts arrivent inopinément pour aider les Cicones et tuent de nombreux Grecs, une perte nette. Peu après, s'ensuit une autre bataille, plus ou moins typique de l'Iliade, cette fois contre une tribu de redoutables géants appelés les Lestrigons, qui se solde également par un désastre pour Ulysse et ses hommes. Tout ça comme pour signifier que, dans ce monde d'après-guerre, les façons d'être à la Christophe Colomb ne sont plus efficaces. À partir de ce moment, le récit prend une tournure plus science-fictionnelle. Le pays des lotophages, une visite de l'île flottante des Ventes, etc. Ce type d'aventure active, où Ulysse incarne l'explorateur occidental archétypique, c'est-à-dire l'envahisseur, trouve son apogée dans sa célèbre rencontre avec le Cyclope, au champ neuf. Le livre s'ouvre sur une Ulysse agissant de façon très similaire à sa première aventure. Avec ses hommes, il accoste sur une côte inconnue, il mène une expédition de reconnaissance, il découvre une grotte manifestement habitée, richement approvisionnée en nourriture et en provisions. Ulysse et ses hommes y pénètrent, se servent et s'endorment. C'est alors que surgit le monstrueux Polyphème, le plus célèbre des cyclopes, ramenant ses troupeaux de moutons après une journée de travail, bloquant l'entrée de la grotte avec une énorme pierre, il se tourne vers ses hôtes inattendus et le chaos s'ensuit. J'ai mentionné que l'équipe de reconnaissance grecque s'était servie dans les réserves de nourriture trouvées dans la grotte de l'étranger. Moment crucial, car les Grecs aurait interprété cela comme une violation flagrante de ce qu'ils appelaient la xénia, le code d'hospitalité si fondamental pour les personnages des poèmes de Homère, selon lequel on n'entre ni mange que à l'invitation de l'hôte. Ulysse et ses hommes ne respectent aucune de ces règles. Le cyclope leur rend l'appareil en dévorant cru deux des hommes d'Ulysse, une inversion grotesque de la norme qui veut bien sûr que l'hôte nourrisse ses invités et non qu'il les mange. Si le cyclope est ici dépeint, et ce ne sera pas la dernière fois dans la tradition occidentale, comme un sauvage étranger aux normes civilisées, il convient de souligner qu'il en va de même pour Ulysse, qui enfreint ce que de nombreux érudits considèrent comme la plus importante de ces normes dans l'univers homérique. Nous avons été tentés de voir en Ulysse, le héros errant, un émissaire de l'Occident civilisé, mais le poème montre clairement qu'il est tout autant le précurseur d'une longue lignée d'explorateurs et de colonisateurs insouciants, voire pires, qui s'aventurent sur des territoires appartenant à autrui, prennent ce qu'ils veulent, puis feignent la surprise et l'offense face à la résistance des populations locales. Il est important de noter, dans ce contexte, que lorsque Ulysse décrit son débarquement sur l'île, il l'évalue précisément à la manière d'un colonisateur de l'époque archaïque, repérant un site propice favorable à la colonisation. Il analyse le terrain en fonction de sa topographie avantageuse, de ses ressources naturelles et de son potentiel agricole. Dès le départ, nous sommes donc dans une logique de colonisation au sens propre de du terme. Cet épisode de Cyclope est généralement perçu comme mettant en avant l'intelligence rusée de l'héros, du héros, qui est indéniablement l'un des éléments déterminants de son identité. Et c'est, en effet, indéniable. Mais, il faut le dire, à quel prix ? L'arme qu'utilise pour vaincre le cyclope est, comme chacun sait, le langage. Lors de leur première rencontre, le géant demande son nom au grec, et Ulysse, assez intelligent et rusé pour comprendre qu'il risque de se mettre dans une situation délicate, donne un faux nom, Outis, qui ressemble d'ailleurs un peu à Odysseus, comme on le prononce en état d'ivresse, ce qui sera d'ailleurs le cas de Cyclope, comme nous le verrons bientôt. Ce qui est intéressant, c'est qu'en grec, le mot « outis » signifie « personne », « ou » signifie « nom » et « tis » signifie « quelqu'un ».« Outis », »,« nom », »,« quelqu'un », »,« personne ». Pourquoi Ulysse a-t-il donné au Cyclope ce nom fictif qui signifie « personne » ? Son plan est en réalité d'utiliser l'alcool qu'il a emporté pour enivrer le cyclope, un bon exemple de l'esprit polytrope, capable à la fois de planifier et d'improviser, en d'autres termes, de duper son adversaire. Une fois le cyclope ivre-mort et inconscient, le héros grec et ses hommes lui crèvent l'œil avec une branche d'olivier taillée en pointe acérée. Fou de douleur, le cyclope erre dans sa caverne close en appelant à l'aide. Ses voisins accourent et lui demandent « Cyclope, cyclope, ça va? On te fait du mal ?» À ce moment précis, le piège verbal du rusé Ulysse se referme. Le cyclope répond « C'est Outis qui m'a fait du mal », ce qui peut être traduit comme « Personne ne me fait du mal ». Du coup, les voisins haussent les épaules et disent « Bon, si personne ne te fait du mal, peu importe ». Puis ils rentrent chez eux et le laissent à son sort. Ce jeu de mots délicieusement subtil, utilisé avec tant de justesse pour vaincre un adversaire incarnant la force brute, s'inscrit en réalité dans un jeu de langage encore plus complexe, qui éclaire avec finesse la question centrale du poème, l'identité. Car en grec, l'une des formes de outis, personne, est métis, qui signifie également personne, mais s'emploie dans des contextes syntaxiques différents. Dans le texte grec, ce que les voisins du cyclope demandent, c'est « Est-ce que quelqu'un, métis, te nuit ?» Ce à quoi le cyclope répond « Personne, outis, me nuit. » Ce qui est brillant, c'est qu'il existe un autre mot grec qui sonne exactement comme « métis » et que ce second « métis » est justement le nom qui signifie « intelligence rusée et tortueuse ». Ainsi, bien que le nom qu'Ulysse donne au cyclope soit, à première vue, un nom faux, l'épisode suggère qu'il est en réalité tout à fait vrai. La question des voisins et la réponse du cyclope nous révèlent exactement qui est Ulysse, à la fois outis, un personne, perdu, naufragé, sans foyer, sans pays, sans famille, inconnu et oublié, mais aussi métis, l'intelligent rusé à son apogée et le trait de caractère le plus saillant de notre héros. Ses personnalités passives et actives sont résumées en un seul jeu de mots. Et pourtant, aussi brillamment complexe que soit l'identité d'Ulysse dans cette scène, à la fois rien et tout, sans nom et manipulateur, la scène avec le cyclope aboutit à l'une des plus grandes catastrophes du héros. Comme nous le savons, Ulysse finit par échapper au cyclope. En réalité, grâce à une autre ruse. Lorsque le cyclope, aveuglé, ouvre la porte de la grotte pour laisser paître ses moutons, Ulysse et ses hommes s'échappent en se cachant, attachés au ventre des bêtes. Les Grecs se débarrassent de leur déguisement et regagnent leur navire, poursuivis de près par le cyclope furieux qui a compris la supercherie. Ils embarquent et prennent le large. Tandis qu'ils s'éloignent des côtés du pays des cyclopes, Ulysse se dresse face à son ennemi et se vante de son intelligence. Rappelons-nous, comme nous l'avons vu, la clé du succès d'Ulysse dans cet épisode résidait dans sa maîtrise du langage, sa manipulation des mots. En particulier, le contrôle strict qu'il exerce sur son nom, qu'il ne révèle d'ailleurs que très rarement dans l'Odyssée. Comme nous l'avons vu, ce qui lui a permis de survivre, c'est un faux nom, une identité usurpée. Mais à présent, triomphant, grisé par son succès, il révèle au Cyclope son véritable nom. C'était Ulysse, fils de Laërte, qui t'a vaincu, Cyclope, se vante-t-il, donnant son nom complet et son patronyme. Information que le proème de ce poème, rappelons-le, omet de fournir. Le problème, c'est que maintenant que Cyclope sait qui est son véritable ennemi, non pas personne, en effet, mais un personnage très célèbre, Ulysse, le héros qui a imaginé la ruse ingénieuse qui lui a permis de gagner la guerre contre Troie, il peut le maudire, et c'est ce qu'il va faire. Cyclope invoque son divin père, le dieu de la mer Poséidon, pour qu'il accable Ulysse de souffrances et de désastres, et Poséidon accède à la requête de son fils. Cet épisode, le premier où Ulysse révèle son nom, est en réalité la raison pour laquelle le reste de son retour est si célèbre pour ses naufrages, ses tempêtes et ses catastrophes maritimes, tout causé par Poséidon, qui a entendu la malédiction de son fils, malédiction que le fils n'a pu proférer que parce qu'il connaît le nom d'Ulysse, que Ulysse lui a révélé dans un moment d'orgueil, d'autopromotion, de vantardise quant à son intelligence. Ainsi, l'épisode qui débute par une intrusion inconsidérée sur le territoire d'autrui et l'appropriation de ses biens culmine d'abord dans un moment de succès, transformant notre inconnu en quelqu'un pour, aussitôt après, s'effondrer dans la défaite, le faisant redevenir un inconnu, perdu en mer, errant, dévié de son chemin, un paria impuissant qui a de nouveau perdu ses repères et son identité. La méthode Christophe Colomb, semble-t-il, mène au désastre, tant pour l'intrus que pour les populations autochtones. N'oublions pas que le cyclope a été aveuglé et ne recouvrera jamais la vue, un sort particulièrement terrible pour un berger. De fait, un examen attentif des migrations d'Ulysse révèle qu'il laisse toujours les peuples et les lieux qu'il visite en ruine. Je souhaite maintenant aborder brièvement l'autre mode auquel Ulysse est contraint lors de ses nombreuses migrations, le mode passif, pour ainsi dire. Car c'est seulement grâce à ce mode, me semble-t-il, que la quête d'Ulysse pour retrouver son identité, qui échoue lors de l'épisode du Cyclope, pourra enfin aboutir. Je voudrais présenter rapidement deux exemples d'Ulysse dans ce mode de migrant sans domicile fixe. Le premier se situe pendant son exil, le second, décisif et culminant, après son retour définitif à Ithaque. Le premier épisode, nous pouvons l'aborder rapidement. Au chant 6, après que les dieux eux-mêmes ont ordonné à Calypso, éploré d'amour, de laisser Ulysse quitter son île, il construit un radeau et prend la mer, pour finalement faire naufrage grâce à Poséidon, pour des raisons que nous connaissons déjà. Il échoue sur la côte rocheuse d'une île nommée Scheria, habitée par un peuple appelé les Phéaciens, les marins expérimentés qui, avec le temps, le ramèneront enfin à Ithaque, point culminant de la première partie de l'épopée. Mais cela n'arrive, pourrait-on dire, que parce que Ulysse doit d'abord endurer les humiliations si familières à tant de réfugiés. Lorsqu'il échoue sur l'île, il est nu comme un ver. Il se blottit sous un buisson, utilisant ses feuilles et ses branches comme abri. Peu après, il rencontre un groupe de jeunes filles qui jouent à la balle au bord de l'eau. L'une d'elles, Nausicaa, se trouve être la fille du roi des Phéaciens. Ulysse, ayant recouvert sa nudité d'une branche, se jette à ses pieds et implore nourriture, abri et vêtements. Elle les lui fournit, et Ulysse, avec un peu d'aide de sa déesse protectrice Athéna, vêtu d'habits empruntés, parvient à la capitale de l'île, puis au palais, où il sollicite solennellement l'aide des souverains, ce qui constitue le début d'un périple couronné de succès qui le ramènera enfin chez lui, un succès qu'il n'atteindra donc qu'après avoir abandonné toute posture de conquistador et s'être plongé dans l'expérience de l'abjection et de dénuement le plus total. L'autre exemple frappant de la réussite de cette posture d'autre se trouve, comme je l'ai dit, dans la seconde moitié de l'épopée, une fois Ulysse de retour à Ithaque. Cela se situe au chant 13, le début de l'arc narratif qui le mènera du rivage où ses accompagnateurs phéaciens l'ont déposé, puis à la cabane d'un fidèle esclave, Eumée, qui devient son complice dans son plan visant à massacrer les prétendants et à pénétrer dans le palais où sa femme est retenue en otage, puis aux portes du palais où son vieux chien Argos le reconnaît, puis à l'intérieur du palais, puis à son ancienne chambre, et enfin au lit au centre de cette chambre, au cœur du palais, où il consommera son mariage avec sa fidèle épouse à la fin du poème. Il est important de souligner que la quasi-totalité de ces événements se déroule après la transformation d'Ulysse en vieillard mendiant. Peu après son arrivée à Ithaque, Athéna modifie radicalement son corps puissant et son apparence héroïque, le desséchant, le rendant chauve et le vêtant de haillons répugnants, le pire apparemment qui puisse succéder à des Grecs. Sous cette apparence, il subit de nombreuses humiliations, insultes, mauvais traitements, moquerie, contraint de mendier pour se nourrir et même, à un moment donné, forcé de se battre contre un autre mendiant pour amuser les prétendants et gagner ainsi son dîner. C'est sous cette forme de mendiant, au plus bas de l'échelle sociale de sa propre société, que la véritable identité de cet homme est enfin révélée. Ce point culminant se situe dans un autre passage qui repose sur la signification complexe d'un seul mot, l'un des passages les plus célèbres de l'épopée. Il s'agit de la scène du chant 19 où le héros est reconnu par sa vieille nourrice Euryclée. À ce stade du récit, Ulysse est parvenu à s'introduire clandestinement dans le palais, toujours déguisé en mendiant, afin de mieux évaluer la situation incognito et de concevoir un plan pour tuer les prétendants et reconquérir sa femme. Peu après son arrivée, Pénélope, intriguée par cet étrange mendiant qui rôde dans les parages, l'invite dans ses appartements où, par courtoisie, on lui offre un bain de pieds. Durant ce rituel, la servante chargée de le baigner, une vieille femme nommée Euryclée, fidèle au service de la cour, remarque une cicatrice particulière sur la cuisse de cet étranger. Une cicatrice qui, elle le comprend sans hésiter, signifie que l'homme face à elle n'est autre qu'Ulysse. À ce moment crucial, le poète choisit de ne pas conclure par une scène émouvante de retrouvailles entre la vieille femme et son maître disparu, mais interrompt plutôt le récit de cette rencontre pour se replonger dans le passé. Il prend son temps pour raconter l'origine de la cicatrice d'Ulysse. On apprend que, jeune homme à peine devenu adulte, il fut blessé à la jambe lors d'une chasse aux sangliers à laquelle il participait en rendant visite à son grand-père maternel, un personnage notoirement fourbe et turbulent nommé Autilucos. Le récit remonte alors encore plus loin dans le temps, expliquant pourquoi Ulysse rendait visite à son grand-père, une histoire qui finalement nous conduit bien avant la chasse aux sangliers, le moment même de la naissance d'Ulysse. On apprend que Autolycus avait rendu visite à sa fille et son gendre peu après la naissance de leur fils. C'est lors de cette visite que la jeune nourrice du bébé Ulysse, celle-là même qui, dans le récit principal de l'Odyssée, reconnaît l'homme adulte, le pied dans son bain, insista pour que Autolycus choisisse le nom du nouveau-né. Dans un accès de vanité narcissique, le grand-père fourbe, qui avait causé tant de souffrances, on apprend, donna à son petit-fils un nom qui lui sied à merveille, Odysseus. Or, le nom Odysseus dérive du verbe grec odysseumai, lui-même issu du mot odyné, douleur. À l'instar du verbe plazo, errer, que j'ai évoqué au début de cet exposé, odysseumai possède une double signification, à la fois active et passive, signifiant aussi bien infliger une douleur atroce que la subir. Le héros de cette histoire complexe a une identité complexe qu'il ne découvre qu'après avoir lui-même enduré une douleur terrible et atroce. Lui qui, dans sa posture active de Christophe Colomb, a infligé de telles souffrances à autrui. Nous nous souvenons, grâce à l'épisode du Cyclope, que lorsqu'il renoue avec son identité iliadique de conquérant impétueux, le désastre s'ensuit. Ce n'est que maintenant, en tant que réfugié sans abri, après tant d'humiliations, que nous apprenons le secret de sa véritable nature. Autrement dit, celle d'un homme littéralement identifié par la douleur, par une cicatrice. Nous avons parcouru un très long chemin depuis ses premières aventures, ses pillages de ville. L'homme qui rentre enfin chez lui est un héros d'un tout autre genre, un héros de souffrance. Je voudrais conclure ce soir en réfléchissant à voix haute aux implications de ce récit ancien, dont j'ai présenté quelques points essentiels, avec l'espoir que ce texte millénaire, si intimement liés aux fondements de la civilisation européenne, avec tout ce que cela implique, puisse nous aider à réfléchir à un sujet qui, je le sais, a préoccupé bien de gens au cours de l'année passée. Si j'ai raison de penser que l'Odyssée ne confère à son héros une identité seulement après qu'il a enduré des souffrances comme peu de héros de son espèce ne sont autorisés à en subir, la pauvreté, le déracinement, la honte, l'humiliation, l'apatridie, les mauvais traitements, je me demande si cela pourrait, à son tour, servir de modèle pour nous, pour nos propres identités face à la souffrance d'autrui. Après tout, la première frontière qui se dresse devant nous chaque fois que nous abordons ces questions cruciales de migration et de frontières est celle qui nous sépare des autres peuples. Ce n'est qu'en tentant de franchir cette frontière que nous pourrons œuvrer à la dissolution de toutes les autres et ainsi transformer enfin ces outils, ces personnes du monde en personnages. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.